بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله on va parler aujourd'hui sur la manière d'accomplir la Umrah. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que je loue de la plus éloquente et la plus pure des manières, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, le bienveillant, le généreux. Je témoigne également que Mohammed et son serviteur et messager sont bien-aimés et amis intimes, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, ainsi que sur tous les prophètes, leurs familles et tous les vertueux. Les savants musulmans sont unanimes sur la légitimité de la Umrah, ainsi que sur ses innombrables vertus, qui sont mentionnés d'ailleurs dans les livres et les recueils de la Sunna. Je cite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'accomplissement d'une Umra efface les péchés commis entre la Umra précédente et celle en cours. Le pèlerinage immaculé de tout péché n'a d'autre récompense que le paradis. Rapporté par Bukhari et Muslim. Il a dit aussi, le combattant dans le sentier d'Allah, le Hajj et le Mu'tamir sont les hôtes d'Allah. Ils ont répondu favorablement à son appel. Ils l'invoquent et ils les exaucent. Le hadith est rapporté par Ibn Majah, jugé bon par l'Albani. Il a dit aussi, faites souvent des pèlerinages et des umrahs, car ils éradiquent la pauvreté et les péchés. À l'instar du feu qui éradique les impuretés du fer, de l'or et de l'argent et les purifie, un pèlerinage vertueux n'a d'autre récompense que le paradis, rapporté par Tirmidhi, Nasa'i. L'agrément d'Allah et le paradis sont le but ultime des croyants. Allah exalté soit-il, a dit dans le hadith Qudsi, « J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce que nul esprit n'a imaginé. » Cette adoration majestueuse dont le but ultime est l'agrément divin, ce but ne peut être atteint que si les deux règles d'or, qui ne vont pas d'ailleurs l'une sans l'autre, et qui représente les deux conditions fondamentales pour qu'une œuvre quelconque d'infidèle puisse compter en tant que bonne œuvre salvatrice et action juste agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit impérativement présente dans l'œuvre. C'est ce que les savants de l'islam formulent par les deux termes arabes al-ikhlas ou al-sawab, ce qui veut dire la sincérité du cœur et la conformité à la loi. La sincérité est une notion relative à l'intention et au dévouement complet du cœur pour Allah Azza wa Jal. En tout agissement, c'est un acte caché et intime. En parallèle, la conformité est un acte apparent. Al-Fudayl ibn Ayyad, Rahimahullah, un grand parmi les grands prédécesseurs, à la fois savant et mystique, interprète le verset suivant. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver qui de vous est le meilleur en œuvre. Dans Surat al-Mulk, la royauté, en disant le plus sincère et le plus conforme à nos lois. Pour cela, il faut absolument que l'adoration soit exempte d'association et d'ostentation, et aussi dans son accomplissement dépourvu d'innovation. Allah le Très-Haut a dit à la fin de Surat al-Kahf, la caverne, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Et selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout acte non conforme à nos enseignements est à rejeter. musulman. Ça veut dire il n'est pas accepté. Allah, exalté soit-il, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. C'est dans Sourate Ali Imran. La Umrah signifie littéralement la visite. Du point de vue religieux, c'est la visite à la maison sacrée d'Allah d'une manière spécifique en accomplissant des actes spécifiques. La Umrah est une adoration constituée de piliers, d'obligations et d'actes surérogatoires ou recommandables. Ces piliers sont en nombre de trois. Je cite. Le premier pilier, c'est Al-Ihram, qui veut dire tout simplement la sacralisation. Le deuxième pilier, le Tawaf, c'est la gravitation autour de la Kaaba, c'est-à-dire accomplir les sept tours autour de la Kaaba Al-Musharrafa. Le troisième pilier, c'est le Sa'i. Effectuer le parcours en marchant entre les deux monticules de Safa et le Marwa, cette fois également. La Umrah ne peut être valide avec le délaissement de l'un de ces trois piliers. Quant à ses obligations, ils ne sont que deux. Première obligation, Al-Ihram du Miqat, qui signifie la sacralisation à partir de l'un des cinq lieux qui servent de repère géographique, cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou sortir au profane, ça veut dire al-hil, pour celui qui se trouve en territoire sacré, à l'intérieur du territoire sacré, comme le Mekwa, ou bien celui qui vient visiter la Mecque et veut accomplir une umrah, il doit absolument sortir al-hil, c'est-à-dire au profane, pour rentrer en état de sacralisation. Deuxième obligation, se raser les cheveux ou les raccourcir pour les hommes et uniquement les raccourcir de l'équivalent d'une phalange pour les femmes. Le rasage pour les hommes est plus méritoire, bien sûr. Il ne convient pas aux pèlerins d'omettre l'une de ces obligations et si tel est le cas, il s'acquittera d'une compensation. Pour valider, bien sûr, sa umrah. Soit un mouton qu'il égorgera à Mecca, ou le septième d'une vache, ou un septième d'un chameau, qui, bien sûr, distribuera aux pauvres Mecquois. Il ne doit impérativement en consommer quoi que ce soit. Quant aux recommandations de la umrah, elles sont très nombreuses et dépassent la vingtaine. Je cite dans l'ordre. Premièrement, effectuer les sunan al-fitra, la saine nature. Ça veut dire se tailler la moustache pour les hommes, se raser les poils du pubis aussi bien pour les hommes que pour les femmes, se désaisseler, se couper les ongles des mains et des pieds si c'est nécessaire. Deuxièmement, le bain rituel avant la sacralisation. Se parfumer pour les hommes, se vêtir des deux étoffes blanches propres, qu'on appelle izar et rida, porter des sandales, des tongs similaires, qui laissent apparaître les orteils et les talons. Et cela, c'est pour les hommes. Prononcer la formule de conditionnement pour celui qui craint ne pas pouvoir finir son rite. Aussi, la telbiya, les invocations, et les évocations concernant la talbiya, c'est à partir de la sacralisation jusqu'au commencement de tawaf. Prendre un bain rituel avant de rentrer à la Mecque. Al-idtiba' dans tout le tawaf qui consiste à faire apparaître son épaule droite. Embrasser la pierre noire ou la toucher ou lui faire un signe avec la main droite en disant Allahu Akbar. Ar-ramal, c'est le fait de presser les pas dans les trois premiers tours. Il faut préciser que Al-Idtiba Et Ramal concerne uniquement les hommes. Toucher le coin yéménite avec la main droite. Réciter le verset sacré entre le coin yéménite et la pierre noire. Seigneur, accorde-nous le bien dans ce monde, le bien dans la vie future, et préserve-nous du châtiment du feu. Accomplir les deux rak'at derrière la station d'Ibrahim, alayhi salatu wa salam, en précédant cela par la récitation du verset du maqam, adopté de la station d'Ibrahim, un lieu de prière. Boire de l'eau de Zemzem et faire des invocations. Aussi avoir ses ablutions pour effectuer le parcours entre Safa et Marwa, Sa'i. Réciter le verset de Safa et Marwa, ainsi dire la formule « Je commence par ce quoi Allah a commencé ». Escalader successivement les deux monticules Safa et Marwa en s'orientant vers la Kaaba, en évoquant et invoquant Allah le Très-Haut. Courir entre les deux lumières vertes pour les hommes valides et capables. Il faut préciser que toutes ces recommandations ne sont en aucun cas obligatoires. Et l'omission de l'une ou plusieurs n'affecte aucunement la validité de la Umrah. En revanche, celui qui les accomplit se voit attribuer une énorme récompense. Résumons. La Umrah débute d'abord par la sacralisation, al-ihram, suivie du tawaf, cette tour autour de la Kaaba, commençant bien sûr par le Hajar al-Aswad, la pierre noire. C'est le point de départ. Et on l'a fini par le Sa'i entre Safa et Marwa, cette fois également, et achevé et finalisé la Umrah par se raser les cheveux ou seulement les raccourcir. A noter que la sacralisation, ce n'est autre que la formule de l'intention pour débuter le rite choisi. Et dans notre cas, c'est la Umrah. La sunna dans cela est d'effectuer un lavage rituel comme celui qu'on fait lors des purifications majeures. Comme c'est relaté dans le hadith de Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ôter ses vêtements puis se laver avant de se sacraliser. Aussi Aïcha radiallahu ta'ala anha raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se parfumait avec les meilleurs parfums à sa disposition avant de se sacraliser. Et elle raconte, elle dit que j'observais l'éclat de la brillance de ce dernier, c'est-à-dire du parfum, sur ses cheveux et sa barbe. Le bain rituel au moment de l'ihram est sunna pour les hommes ainsi que les femmes, même les femmes en période de menstrue ou de lochi. Car pendant le pèlerinage d'adieu, Asma, fille de Umays, épouse de Abu Bakr, radiallahu anhum jami'an, accompagna le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir son pèlerinage. Arrivé au miqat de Dhul Hulayfa, c'est-à-dire le miqat des gens de Médine, elle donna naissance à Muhammad ibn Abu Bakr, fils de Abu Bakr. Puis elle demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dois-je faire maintenant? Elle lui répondit tout simplement, prends un bain, protège-toi et entre en état de sacralisation. Après le bain rituel, les hommes doivent se vêtir des deux étoffes blanches, le rida et l'izar. Et ce vêtement est spécifique pour les hommes. Quant aux femmes, elles s'habillent normalement, comme ils ont l'habitude de le faire. Bien sûr, en évitant les parures et les vêtements d'apparat. Ils ne doivent porter ni niqab ni gants pendant la umrah, c'est-à-dire pendant l'état de sacralisation. Ensuite, prier si c'est l'heure de la prière obligatoire, sauf bien sûr les femmes indisposées. À défaut, C'est-à-dire, si ce n'est pas l'heure de la prière obligatoire, on accomplit deux rak'at sunna, sunnat al-wudu. Notons bien que l'ihram n'a pas de prière spécifique. En revanche, le miqat de Dhul Hulayfa est un cas particulier parmi les autres miqat. La raison, c'est qu'il se trouve dans un wad, c'est-à-dire dans une vallée, bini. Selon Omar radiallahu anhu, a dit dans la vallée d'Al-Aqiq, j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, dire, le Seigneur m'a envoyé cette nuit un messager pour me dire, fais la prière dans cette vallée bénie et dis, j'accomplis une umra associée au hajj. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah. Après avoir effectué la prière obligatoire ou surrogatoire, le pèlerin, il ou elle, monte dans le toka, c'est-à-dire le moyen de déplacement, loue le Seigneur, le glorifie et acclame sa grandeur en disant « Louange à Allah, gloire à Allah, Allah est le plus grand. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. » Comme c'est mentionné dans les livres de Sunna et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avant Talbiya. Notons que cette Sunna est bel et bien abandonnée et peu de pèlerins la pratiquent. Pour les pèlerins qui viennent par voie aérienne et qui commencent par Mecca, leur miqat se trouve à Al-Juhfa avant d'arriver à l'aéroport de Jeddah. Alors pour eux, les préparatifs comme les sunan al-fitra, les bains rituels, se font à leur domicile avant de prendre l'avion. S'ils ont une escale telle le Caire, Istanbul ou Oman, il est recommandable pour eux de mettre leurs habits d'ihram à ces endroits, pour les hommes, et entrer en état de sacralisation dès que le commandant de bord l'annonce. À défaut de l'annonce, 30 minutes à peu près, avant l'atterrissage à Jeddah, il prononce la Talbiya avec la ferme intention de débuter le rite de la Umrah. Et cette intention est valable aussi pour ceux qui empruntent la voie terrestre, en déclarant verbalement la nature du rite, en disant « Labbayka Umrah » ou « Labbayka Allahumma Umrah » qui signifie littéralement « Me voici Seigneur, prêt à accomplir une Umrah ». Dès ce moment, la récitation de la Talbiya devient légitime. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, qui signifie me voici ô Seigneur. Me voici. Tu n'as pas d'associé. Me voici en vérité, la louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé. Et en élevant la voix pour les hommes. Selon Saïd ibn Khalad, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril m'a ordonné de dire à mes compagnons qu'ils doivent élever la voix lors de la talbiya. Et c'est une manière apparente de bien exalter les injonctions sacrées d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et réclamer haut et fort l'unicité divine, tawhid. D'après Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a personne qui fait la talbiya sans que ne fasse la talbiya tout ce qui se trouve à sa droite et sa gauche, comme pierre, arbre ou terre. » Le hadith a été rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah, jugé authentique par l'Albani. Le fait que ces choses suivent le croyant dans cette formule de rappel montre sa noblesse, son mérite auprès d'Allah Azza wa Jal. Le sens de Talbiya, c'est répondre présent à l'appel lancé par les deux nobles messagers et amis intimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim et Muhammad alayhim as-salam. Allah exalté soit-il, a dit, et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. C'est dans Sourate al-Hajj. Et donc c'est un ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à Ibrahim alayhi salam d'appeler les gens pour cette adoration éminente. Et la Umrah, c'est le petit pèlerinage. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala nous prêcha en disant: ô gens, Allah vous a prescrit le Hajj, accomplissez-le donc. Le hadith est plus long, mais on se contente de cette partie comme preuve. Et bien sûr, il est dans Sahih Muslim. Il est permis de sortir de l'état de sacralisation, c'est-à-dire l'ihram, en cas de maladie ou tout autre empêchement. Selon Aïcha radiallahu anha, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entra chez Duba'a, fille de Zubir, et lui dit: tu as voulu accomplir le Hajj? Elle lui répondit: par Allah, j'éprouve une certaine douleur. Et lui dit: accomplis le Hajj en fixant une condition. Dis: ô Allah, mon état de sacralisation prend fin là où tu me retiendras. Alors, celui qui a fixé cette condition, il a le droit de quitter l'état de sacralisation, sitôt retenu par une maladie ou un ennemi ou autre. Et n'est pas tenu de sacrifier une bête. Contrairement à celui qui n'a pas formulé cette condition, il doit absolument sacrifier une bête. S'il est retenu, ensuite quitter son état de sacralisation. Selon la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si vous en êtes empêché, compensez cela avec un sacrifice qui vous est possible. En revanche, celui qui ne craint pas l'empêchement, il n'est pas recommandable pour lui de conditionner son ihram, c'est-à-dire de poser cette condition. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Il ne l'a pas recommandé à tout le monde, mais seulement incité sa cousine Duba'a de le faire car elle était malade. Alors, toute personne dans son cas, il est légitime pour elle de formuler cette condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les rites: prenez vos rites de moi. C'est un modèle pour nous. C'est notre imam. Idem, on doit se référer éventuellement à ses dires et à ses actes. Une fois l'intention formulée de la telbiya, prononcée par le pèlerin, il ou elle, il doit absolument respecter toutes les interdictions durant la sacralisation. Ces interdictions sont de trois catégories. Une catégorie commune aux hommes et aux femmes, une deuxième concerne que les hommes, et la dernière, elle est propre pour les femmes. On commence par les interdictions qui sont communes aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire, les deux ne doivent pas se couper les ongles pendant la sacralisation, l'état de sacralisation. Les cheveux ne doivent pas se raser, se parfumer, mettre des gants, aussi bien les femmes que les hommes, contracter un acte de mariage ou d'en faire la demande, avoir des rapports charnels ou c'est préliminaire, chasser le gibier en le tuant, en l'égorgeant ou simplement en l'effarouchant, commettre toutes sortes de péchés, se disputer ou de polémiquer. Bon, maintenant, les interdictions concernant les hommes. Porter des vêtements cousus, ça veut dire confectionnés sur le corps, qui épouse la forme du corps, tel le kamis, pantalon, chaussettes, etc. Sauf dans le cas où il ne trouve pas d'izar, il peut porter un pantalon. Et à défaut de sandales, il peut éventuellement porter des chaussures. Se couvrir la tête. Les interdictions aux femmes c'est de se couvrir le visage. Bien sûr, on a parlé des gants auparavant, parce que c'est un truc commun pour les deux. Et quiconque transgresse ces interdits sous l'effet de l'oubli ou de l'ignorance, il n'a aucune expiation à faire. Et le pèlerin, il ou elle, continue à prononcer la telbiya jusqu'à ce qu'il débute le tawaf, dans une autre version, dès l'apparition de l'agglomération mécoise. Dans tous les cas, les deux avis sont légitimes. Il faut profiter de cette opportunité pour multiplier la telbiya, car c'est l'emblème de la Umra et du Hajj, et de la prononcer dans toutes les situations, au lever du soleil, à son coucher, au moment de la descente, ou en montant, etc., etc. À l'approche de la Mecque, il est recommandable de prendre un bain rituel, ghusl, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Arrivé à la mosquée sacrée, le pèlerin et la pèlerine rentrent avec le pied droit en disant, et ça c'est pas uniquement pour la mosquée sacrée, mais toutes les mosquées, en disant au nom d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur le messager d'Allah. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Je demande refuge auprès d'Allah le sublime et sa noble face et sa souveraineté éternelle contre Satan le lapidé. A'udhu billahi al-azim, abi wajhi al-karim, wa sultani al-qadim, min al-shaytani al-rajim. Puis, les pèlerins pénètrent dans l'enceinte de la mosquée sacrée avec humilité, dévotion et émotion, en se rappelant l'immense grâce et privilège qu'Allah lui a accordé. Se mémoriser tous les obstacles qu'il lui a enlevés pour enfin arriver à proximité de sa noble et prestigieuse maison. Ensuite, il s'approche de la maison antique, et en particulier du coin qui comporte la pierre noire, afin de débuter son tawaf. Et il touche la pierre noire avec sa main droite, puis l'embrasse la pierre noire. Sinon, il se contente de lui faire un signe avec la main droite en disant « Allahu Akbar ». Et surtout, éviter toute bousculade, toute transgression ou injustice envers les autres pèlerins, pour la simple raison de toucher la pierre noire. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vivement interdit cela, et il a dit à Omar, radiallahu anhu, le deuxième calife, « Ô Omar, tu es un homme fort, ne cause donc pas de tort aux faibles. Lorsque tu veux toucher la pierre noire, si le chemin est libre, alors touche-la, sinon fais-lui un signe et dis Allahu Akbar. » C'est très simple la sunna. La sunna pour les hommes dans ce tawaf al-qudum, c'est-à-dire tawaf al-umra, c'est de l'accomplir en entier l'épaule droite découverte et accélérer les pas pendant les trois premiers tours et marcher normalement pendant les quatre restants. Et garder tout au long du tawaf en entier, bien sûr, la Kaaba sur sa gauche. Et quand il arrive au quatrième coin de celle-ci, il a le droit de le toucher. C'est le coin yéménite. Mais bien sûr, sans l'embrasser et sans faire de signe avec la main. De la Kaaba, on ne touche que deux coins. Le coin de la pierre noire et le coin yéménite. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bâtis sur les fondations d'Ibrahim alayhi salam. Et il est recommandable de dire entre ces deux coins, c'est-à-dire le coin yéménite et le coin de Hajar al-Aswad, la pierre noire, « Seigneur, accorde-nous une bonne action dans la vie d'ici-bas et une autre dans la vie future et protège-nous du châtiment du feu. »« Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. » Il faut rappeler que le tawaf doit être accompli en état d'ablution. Selon Aïcha, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit pendant son pèlerinage, fais tout ce que fait le pèlerin, sauf la gravitation autour de la Kaaba, yani le tawaf, jusqu'à ce que tu sois purifié. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est l'avis de la majorité des savants, contrairement à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et parmi les contemporains, Cheikh l'Utaymiyyah, rahimahullah, qui voit que les ablutions ne sont pas une obligation, mais tout simplement une recommandation. Et pendant son tawaf, le pèlerin, à chaque fois qu'il arrive au niveau de la pierre noire, il lève la main droite et il dit « Allahu Akbar ». Et il choisit ce qu'il veut comme invocation, évocation ou récitation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La gravitation autour de la maison sacrée, ainsi que la marche entre Safa et Marwa et le jet des pierres sur les stèles ont été institués pour l'évocation d'Allah. » L'idhikrillah. Il n'y a aucun dhikr spécifique pour chaque shaut. Alors, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on récite le Coran et on évoque Allah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tout ça, c'est mashrou', il est légitime dans le tawaf. Une fois les sept shaut achevés, il s'oriente vers la station d'Ibrahim, alayhi salatu salam, en récitant le verset et adopter de la station d'Ibrahim un lieu de prière. وَاتَّخِدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Et il met fin à l'idtiba, c'est-à-dire recouvrir son épaule avant d'entamer les deux rak'at sunnah, c'est-à-dire derrière le maqam, et réciter dans la première rak'a, al-fatiha, avec surat al-kafirun, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Et dans la deuxième rak'a, surat al-fatiha, bien sûr suivi par surat al-ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد. Une fois que la prière est terminée, il peut revenir pour toucher la pierre noire, si cela est possible, bien sûr. Sinon, il ne fait aucun geste. Il est recommandable et louable de boire de l'eau de zamzam jusqu'à ce qu'il soit rassasié et en verser un peu sur sa tête et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure des eaux à la surface de la terre est l'eau de zamzam. Elle est certes bénie. C'est une vraie nourriture et un remède pour la maladie. » Il a dit aussi « La chose pour laquelle est bu l'eau de zamzam est exaucée. » Authentifié par l'Albani. Puis se diriger vers le mont Safa en disant « Certes, Safa et Marwa font partie des rites sacrés d'Allah. » Je commence le parcours par Safa comme indiqué par Allah subhanahu wa ta'ala. Il gravit jusqu'à ce qu'il voit la Kaaba, se retourne vers elle et glorifie Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahu Akbar trois fois. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah, seul et unique, n'ayant aucun associé. À lui appartiennent la royauté et la louange. Et il a le pouvoir sur toute chose. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Il a tenu sa promesse et donné victoire à son serviteur et il a vaincu les coalisés à lui tout seul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shayin qadir. La ilaha illallah wahda, anjaza wa'da wa nasara 'abda. Il fait cela trois fois et invoque Allah entre les deux dhikr. Puis descend pour entamer son parcours vers Al-Marwa. Et entre les deux lumières vertes qui représentent le creux de la vallée où Hajar radiallahu ta'ala anha courait, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerin homme capable se met à courir à cette distance. Puis marche le reste du parcours. Ça fait à peu près une centaine de mètres. Une fois arrivé à Marwa, il refait la même chose qu'il a fait à Safa, à savoir escalader le mont, s'orienter vers la Kaaba, faire les évocations ainsi que les invocations à trois reprises, puis se diriger vers Safa, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il complète les sept allers-retours. De Safa à Marwa, Shaout, et de Marwa à Safa, Shaout. Et comme Tawaf, il n'y a pas d'évocation ou d'invocation spécifique entre Safa et Marwa. Par contre, Abdullah ibn Omar, ainsi que ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, disaient ceci entre Safa et Marwa: Seigneur, pardonne et fais miséricorde, car tu es le Tout-Puissant et le plus généreux. Allahumma ghfir warham, anta al-a'azzul akram. Le parcours entre Safa et Marwa, la fin doit se terminer à Marwa. On commence par Safa et on finit à Marwa. À la fin, il rase ses cheveux ou les raccourcit. Et raser est plus méritoire pour les hommes. Quant aux femmes, elles se coupent l'équivalent d'une phalange, à peu près 2 cm. Il faut que le rasage ou la coupe soit intégrale, c'est-à-dire qu'il couvre toute la tête, sauf évidemment si la période de Hajj est trop proche. À ce moment, le raccourcissement est plus méritoire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ses compagnons de faire ainsi lors du pèlerinage d'adieu, car il restait que 4 jours à peu près entre la Umrah qu'ils ont effectuée et le Hajj. Et il a dit: prenez de moi vos rites. Ainsi s'achève la Umrah et les pèlerins se désacralisent totalement et reviennent à la vie normale sans contrainte des interdictions de l'Ihram. Dieu seul sait. Et prière et salut sur son messager et bien-aimé. Ô Allah, gloire à toi et louange à toi. Je témoigne qu'il n'y a de divinité que toi. Je te demande pardon et je me repens à toi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين